Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 6h30, c'est l'heure du journal Les Infos, présenté par Stéphane Jeunesse. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. Le tarif des péages en forte hausse début février, malgré la forte rentabilité des concessionnaires d'autoroutes. La réforme des retraites et sa contestation, journée de mobilisation prévue mardi, on vous explique à quoi il faudra s'attendre. Et le rugby français désavoue Bernard Laporte en refusant la désignation d'un de ses bras droits pour le remplacer. Un comité directeur de la fédération se tient ce matin.
C'est un débat qui revient souvent à la une de l'actualité. Faut-il nationaliser, renationaliser les autoroutes du pays?
Et s'il revient ce matin à la une, c'est parce qu'on apprend dans le Canard enchaîné de cette semaine que Bercy aurait fermé les yeux sur un rapport de l'Inspection Générale des Finances. Rapport qui évoque une sur-rentabilité des concessionnaires d'autoroutes. Et ça fait mauvais genre, puisque le prix au péage va encore augmenter la semaine prochaine de presque 5%, Vincent Chevalier.
45 000 km par an avec son travail. Yann est très souvent sur les routes et donc sur les autoroutes.
Alors je sais pas si je paye le prix juste, mais le prix il est quand même relativement élevé, oui.
Si ce directeur des ventes ne se plaint pas de leur qualité, ce n'est pas le cas d'Elisabeth.
Quand il y a un problème, quand il y a, on perd du temps et on n'a aucune excuse, rien du tout, il suffit de payer.
Dans ces conditions, difficile d'accepter une nouvelle hausse des prix au 1er février. La nationalisation des autoroutes représente alors une vraie solution pour certains.
Les prix seraient plus lissé peut-être.
Est-ce que potentiellement l'argent serait réinvesti pour les autoroutes après ça, c'est la grande question.
La France Insoumise avait déposé une proposition de loi dans ce sens, texte rejeté en première lecture, mais les élus n'en démordent pas.
Il faut reprendre la maîtrise publique sur un certain nombre d'infrastructures et les autoroutes doivent en faire partie.
Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis.
C'est une expropriation de l'État qui doit être réalisée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas en plus repayer à ces sociétés-là. On leur a fait un cadeau depuis des années où elles ont engrangé de l'argent. Aujourd'hui, ça suffit. Il faut que ça revienne sous maîtrise publique. C'est une urgence absolue.
Les concessions autoroutières arriveront à échéance dans les 10 prochaines années, entre 2031 et 2036.
Et on vous attend d'ailleurs au 32-16 pour en débattre. Est-ce que l'État doit reprendre la main sur les autoroutes? Est-ce que vous faites confiance à l'État pour gérer ces routes, hein? Est-ce que vous voulez que les autoroutes fonctionnent comme les nationales, comme les départementales? C'est vous qui êtes sur la route, c'est vous qui témoignez, c'est vous qui payez au fond ces autoroutes tous les jours, ces barrières de péage. C'est vous qui venez nous le raconter ce matin, vous témoignez au 32-16. On va en débattre dans un instant avec toute l'équipe. Donc c'est votre avis sur RMC et RMC Story.
L'actualité ce matin, c'est aussi la réforme des retraites, évidemment, le texte qui arrive à l'Assemblée nationale. 7000 amendements déposés, que ce soit par l'opposition ou par la majorité. Marine Le Pen, la présidente du groupe RN au Palais Bourbon, appelle les électeurs de la majorité et de la droite justement à faire pression sur leurs députés pour contrer la réforme.
Je pense que le vote de cette loi n'est pas joué. Il reste encore un certain nombre de jours où, à mon sens, les électeurs LR doivent faire maintenant pression directement sur leurs députés. Ils doivent interpeller leurs députés pour leur expliquer qu'il n'est pas possible de soutenir une réforme qui est une réforme, encore une fois, profondément injuste, profondément antisociale.
En attendant, la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est mardi. Et ce matin, RMC vous révèle cette tendance. Il y aura apparemment moins de grévistes chez les directeurs d'école, seulement 40% d'entre eux, contre 65% lors de la dernière journée de mobilisation du 19 janvier. Et on en sait un peu plus sur l'importance du mouvement de mardi, Romain Hougue.
Oui, la mobilisation qui s'annonce tout de même très suivie. Les syndicats, en tout cas, sont optimistes, notamment du côté de la RATP, où le mouvement devrait être aussi fort que le 19 janvier dernier. Ça, c'est ce qu'un élu promet. Les transports franciliens avaient été largement paralysés toute la journée. Le mouvement qui devrait être suivi également dans les trains de la SNCF. Les quatre syndicats majoritaires appellent à la grève. Dans les écoles, l'accueil des élèves sera une nouvelle fois perturbé, comme dans le secondaire, où plusieurs syndicats de lycéens appellent au blocage des établissements. Le secteur de l'énergie, lui aussi, est très mobilisé. La CGT a d'ores et déjà annoncé qu'il fallait s'attendre à d'importantes baisses de production d'électricité dès lundi. Enfin, dans les raffineries, de nombreux salariés ont cessé le travail. Hier, la grève, qui devait durer 48 heures, pourrait finalement s'arrêter dès ce matin sur plusieurs sites afin, selon la CGT, de se préserver pour la mobilisation de mardi prochain.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. À l'international au moins, 10 Palestiniens tués par l'armée israélienne hier et cette nuit en Cisjordanie et à Gaza. Israël qui présente ses opérations militaires comme une réponse à des frappes du Hamas. Et l'Ukraine, où au moins 11 civils tués hier après une nouvelle salve de bombardements russes, des sites énergétiques touchés, ce qui a provoqué des pannes d'électricité. Et en marge de cette guerre d'ailleurs, Kiev demande à l'Open d'Australie que le père de Novak Djokovic soit interdit de stade. Il a été filmé avec les supporters brandissant des drapeaux et des symboles pro-russes. Retour en France, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses, les villes qui installent des bornes d'appel d'urgence pour lutter contre l'insécurité. Le concept, grâce à l'activation de la borne, les caméras de surveillance pointent directement la personne en danger. Dernière ville en date, Libourne en Gironde, Bettina de Guglielmo.
Les habitants de Libourne se sentent de plus en plus en insécurité. André, 80 ans, s'est fait agresser il y a quelques mois.
Pour une ville de 25 000 habitants, ça surprend un peu. Moi, je suis sceptique quand même. Hein. C'est pas avec des bandes d'appel qu'on résout certains problèmes.
Un dispositif qui pourra permettre aux habitants de sortir davantage en soirée, selon Stéphanie, commerçante en centre-ville.
Bah, c'est 7h30 quand les magasins ferment. Et c'est vrai que ça traîne, c'est des jeunes qui traînent. Et peut-être que du coup, les gens reviendront un peu plus dans Libourne le soir, parce que je pense que c'est ce qui fait aussi que y a moins de gens dans les bars, etc.
Maire adjoint à la sécurité de Libourne, Jean-Louis Arcaraz, explique comment fonctionneront ces bornes d'appel.
Dès qu'on appuie sur le bouton de cette borne, les caméras qui sont à proximité vont se mettre en relation avec la borne et la proximité de la borne et prévenir l'opérateur qui pourra directement parler à la personne et lui donner les réactions à avoir en urgence, quoi, et pouvoir intervenir le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans la minute ou les deux minutes qui suivent l'appel.
Les bornes d'appel d'urgence ont déjà fait leurs preuves à Nice, notamment en 2020. Le dispositif a permis d'appréhender un terroriste.
Le reportage de Bettina de Guglielmo avec les équipes de BFM TV. Les sports à présent, avec le comité directeur de la Fédération Française de Rugby qui se réunit ce matin à Marcoussis. Après la mise en retrait de Bernard Laporte, la crise s'aggrave. La désignation de Patrick Buisson comme président délégué de la Fédé a été rejetée hier par les clubs amateurs. Un comité directeur donc auquel assistera Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, et elle entend bien mettre la pression sur le plan Laporte.
Je serai à Marcoussis avec l'ensemble des membres du comité directeur pour leur porter mon message, pour les écouter et ensuite les laisser délibérer, les laisser prendre leurs responsabilités afin de rétablir le plus rapidement possible une gouvernance qui soit à la fois claire et légitime à la tête de cette fédération et de le faire dans l'intérêt supérieur du rugby français.
Et le sport, c'est aussi ce rendez-vous ce soir, 21h, demi-finale des championnats du monde de handball. La France qui affronte la Suède, rencontre que vous vivrez évidemment en intégralité sur RMC.
Et puis, évidemment, Stéphane, le quintet, les pronos de la Dream Team, aujourd'hui, ça se court à Deauville. Hein.
Oui, c'est en nocturne avec un départ à 20h15. Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le numéro 3, mon ami l'Écossais. Leur outsider, c'est le numéro 12, Dr. Ron, le 3 et le 12.
C'était les pronos de la Dream Team, le journal complet avec Stéphane Genest. On vous retrouve à 7h30 pour un prochain journal en direct sur RMC et RMC Story. Il est 6h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des profits bien plus importants que prévu, des tarifs qui vont encore augmenter la semaine prochaine. Faut-il davantage contrôler les sociétés d'autoroutes, voire les renationaliser? On va en débattre tous ensemble avec Nicolas Poincaré, Emmanuel Lechypre qui viennent de s'installer. Et on vous attend, vous, au 32-16 tout de suite sur RMC.
RMC, police justice.
Mais d'abord, comme tous les matins, l'histoire du jour avec le service police-justice d'RMC. Ce matin, Guillaume Biet, vous revenez pour RMC sur le démantèlement d'un des plus gros groupes de pirates informatiques.
Oui, et pourtant ces hackers n'étaient pas des amateurs, ils étaient même à la tête de l'un des principaux réseaux d'attaques par rançongiciel. Vous savez, ces programmes malveillants qui s'infiltrent dans une entreprise et qui paralysent tout en attendant qu'une rançon soit payée. Avec ce mode opératoire, les pirates en question sont soupçonnés d'avoir engrangé plus de 100 millions de dollars en rançonnant par exemple des hôpitaux américains ou des grandes chaînes de magasins. Sauf qu'en juin dernier, les experts informatiques du FBI ont réussi à infiltrer ce réseau et à récupérer la fameuse clé de chiffrement. En gros, c'est le code que les pirates fournissent à leurs victimes pour débloquer le système une fois qu'elles ont payé la rançon. Du coup, pendant des mois. Le FBI a directement donné lui-même cette fameuse clé à toutes les structures qui étaient ciblées. Les pirates ont été pris à leur propre piège. On a hacké les hackers, résume la numéro 2 du ministère américain de la Justice. 130 millions de dollars sont ainsi passés sous le nez des pirates, qui n'ont certes pas encore été arrêtés, mais leurs serveurs ont été saisis. Les enquêteurs ont récupéré toutes leurs données et ils ont fait ce triste constat. Seuls 20% des victimes ont alerté la police, ce qui confirme qu'en général, la grande majorité ne dit rien et paie la rançon.
Récit signé Guillaume Biet, le chef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
Il est 6h42, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story.
C'est votre avis.
62 euros pour un Paris-Marseille, 20 euros pour un Bordeaux-Toulouse. Prendre l'autoroute, ça coûte cher et ça va coûter encore plus cher à partir de mercredi prochain. Les tarifs vont augmenter de 4,7%, tout cela alors que les sociétés d'autoroute font des profits record, à tel point d'ailleurs que certains voudraient aujourd'hui renationaliser ces sociétés d'autoroute. Je sais que le terme fait bondir Emmanuel Lechypre qui va nous expliquer tout ça dans un instant. Mais écoutons d'abord le sénateur UDI de l'Essonne, Vincent Delahaye. Il est rapporteur de la commission d'enquête sur le contrôle et la régulation des concessions autoroutières. Pour lui, il ne faudrait pas nationaliser.
Les autoroutes sont bien gérées aujourd'hui, sauf qu'elles rapportent beaucoup trop d'argent aux concessionnaires. Donc c'est cela qu'il faut travailler. Et quand on regarde l'augmentation des tarifs, près de 5% là au 1er février, ça devrait être moins de 2%. Je pense que le gouvernement n'a pas négocié suffisamment fort avec les sociétés d'autoroutes.
Voilà, les sociétés d'autoroutes trop rentables. On va poser la question, tiens, à Franck qui nous appelle de Rouen, c'est ça ? Bonjour Franck.
Oui, bonjour Charles. Bonjour Franck, à tous les auditeurs, une bonne année, une bonne santé.
Ouais, meilleurs vœux Franck, on a encore quelques jours pour se souhaiter la bonne année. Et alors Franck, bah vous êtes un des premiers concernés, j'imagine, vous êtes chauffeur routier, c'est ça ?
Oui, je suis chauffeur routier, oui. Et puis là, je suis actuellement sur la Nationale 79, enfin, qui est devenue une autoroute, parce que comme on devrait renationaliser, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va payer, quoi, en fait.
Parce que, fameuse autoroute qui est devenue la première autoroute sans barrière, non, c'est ça, sans péage ?
Voilà, c'est ça. En fait, c'est la Nationale 79, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la route de la mort, les fameux crashs face à face et tout sur une voie. Il y a eu d'énormes travaux, hein, pour reconnaître qu'ils ont fait des travaux énormes sur cette Nationale 79, mais c'est devenu une autoroute à péage. Et le problème, c'est que c'est des péages sans barrière. Vous ne savez pas ce que vous payez. Ça fait un bip quand vous passez au niveau de la barrière et ça fait un autre bip quand vous passez au niveau d'une autre barrière, mais il n'y a pas de barrière, en fait.
Oui, c'est des autoroutes sans péage. Et on nous dit d'ailleurs que c'est l'avenir, que toutes les autoroutes vont devenir comme ça. Mais Franck, de toute façon, vous le dites très bien, il y a des gros investissements qui ont été faits, des gros travaux, donc il faut les payer, ces travaux, Franck.
Oui, bien sûr, faut payer les travaux, mais nous, comment on va savoir ce qu'on paye, en fait ?
Si on arrive au péage, il n'y a pas moyen de savoir combien ça coûte.
Non, il n'y a pas. Si vous voulez, sur les panneaux, il y a marqué flux libre. Vous avez un petit piéton, là, avec une cabane. Moi, j'ai même cru que les piétons, ils allaient payer aussi pour traverser la route. Enfin, bref. le problème, c'est que c'est noté flux libre, et vous avez 72 heures pour payer.
Oui, mais vous avez raison, il y a un petit côté opaque où on ne sait pas au moment où on passe exactement combien ça va nous coûter. Mais plus globalement, Franck, vous qui êtes sur la route tous les jours, prendre l'autoroute, est-ce que c'est c'est aussi un confort ? Non, en France, on a de belles autoroutes.
Oui, bien sûr, on a de belles autoroutes, mais la rentabilité pour eux, si vous voulez, c'est qu'ils pourront augmenter quand ils voudront les prix.
C'est ce que dit d'ailleurs
le badge. Le fait d'avoir le badge vous permettra de passer l'autoroute, de payer, d'être honnête et tout ça, mais tous les gens qui vont prendre ces autoroutes-là et qui vont passer, ça va biper, en fait, ils vont en arrêter sûrement quelques-uns un peu plus loin, ils vont en arrêter 3, 4 ou 5, 6, mais tous les gens qui vont passer ces autoroutes-là sans les payer, ça va faire augmenter les prix, non ?
Ah, mais je suis pas sûr qu'on puisse frauder, parce que justement, ils vont prendre en photo les plaques d'immatriculation, etc. Ça va être a priori bien rodé, ce système. On verra, parce que c'est une première. Donc, Franck, on va attendre d'avoir un retour d'expérience sur cet exemple-là. Mais plus globalement, Franck, là, la question ce matin, elle concerne toutes les autoroutes de France. Est-ce qu'il faudrait les renationaliser? Est-ce qu'elles coûtent trop cher? Est-ce qu'on paye trop cher aujourd'hui pour prendre l'autoroute en France?
Elles vont être renationalisées automatiquement, puisqu'il y aura plus de barrières. Donc, il y aura juste à mettre des portiques à la Sarkozy, là, pour faire le relais Macron, la Bretagne, en fait.
Alors, Franck, vous savez quoi ? On va accueillir David, qui a lui aussi composé le 32-16 depuis la Vienne. Bonjour, David.
Bonjour à tous, meilleur vœu aussi.
Salut, David. Agriculteur, donc j'imagine, je ne sais pas si vous prenez souvent l'autoroute ou pas pour votre boulot. Pas avec le tracteur, j'imagine, mais...
Ah bah je peux essayer, mais ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, David.
Je vais foutre un peu le bordel.
D'accord. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce débat ce matin sur les tarifs et surtout sur la, j'allais dire, la rentabilité, la surrentabilité des sociétés d'autoroutes?
Bah pour moi, c'est une très mauvaise idée parce qu'on regarde uniquement par le côté profit qui, en effet, que les sociétés font actuellement. Mais on sait très bien comment l'État travaille et ils sont très mauvais gestionnaires au niveau entreprise. Donc, si on espère renationaliser pour que les prix baissent, du coup, on fera moins de profit. On sait que l'entretien des routes actuellement, c'est très très compliqué. Donc, les autoroutes, si ça devient, c'est pareil, de très mauvaise qualité, ça va devenir compliqué. Alors après, peut-être qu'ils font trop de profit, ça on peut pas le nier, mais après on y participe nous-mêmes, parce que si on veut pas qu'ils fassent des super profits, on n'utilise pas l'autoroute aussi, tout simplement.
Ah oui, mais ça devrait être un service, alors j'allais dire presque un service public, en tout cas on a le droit de rouler. Est-ce que les autoroutes sont faites pour faire des profits? Ça doit juste permettre aux Français de circuler, non? Si l'État reprend les autoroutes, il va investir de l'argent public pour qu'on puisse tous rouler. L'objectif, est-ce que c'est vraiment de faire des profits avec les autoroutes, justement, David?
Ah bah ça, à ce moment-là, fallait pas le laisser aux sociétés privées.
Ah, c'est... justement, et c'est tout l'objet du débat, c'est ces contrats, mais... ces concessions. D'ailleurs, je me tourne vers Emmanuel Le Chypre, on débat là des profits, etc. On accuse quelque part les sociétés d'autoroutes, mais elles sont dans leur bon droit, elles ont signé un contrat. Ouais. C'est l'État qui a été mauvais, qui a été mauvais au moment de signer ces contrats, non Emmanuel?
Alors il faut rappeler qu'on peut pas parler de renationalisation, hein, parce qu'il n'y a pas eu de privatisation. Il faut rappeler que les autoroutes
sont des concessions.
Elles appartiennent toujours à l'État et qu'on en a délégué la concession à des sociétés.
Enfin, parfois sur 70 ans.
C'est, oui. Privé. Alors c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement l'État a mal négocié au début. Et ça, c'est quand même... Alors, par ailleurs, c'est un problème récurrent. C'est-à-dire que l'État est un très mauvais acheteur, est un très mauvais négociateur. Et donc, les sociétés privées, effectivement, il y a sans doute des moyens. Il y a des reproches qui leur sont faits dans deux rapports qui viennent de sortir. Un par l'Inspection Générale des Finances, un par l'Autorité de Régulation des Transports, qui conclut... Alors, il y a un désaccord entre les deux rapports sur la rentabilité des sociétés d'autoroutes. L'Autorité de Régulation des Transports, qui fait plutôt autorité, dit il n'y a pas de rentabilité... trop importante. Par contre, elle dit, oui, la concurrence, elle a été mal organisée, et donc elle fait des préconisations intéressantes. Alors, renationaliser avant, entre guillemets, comme vous dites, ça ce serait stupide parce que ça coûterait trop cher, mais en revanche, ils disent, il faut que les durées de concession soient beaucoup plus courtes, et en fait, c'est l'État qui les a allongées à chaque fois, hein, parce que l'État disait, ah oui, vous voulez faire des travaux, ok, ouais, mais nous, on n'a pas les moyens de vous payer, donc bah, allez, on vous donne la concession pour quelques années de plus. Voilà, donc ils disent, il faut des concessions beaucoup plus courtes, et aussi, beaucoup plus, des tronçons de concession beaucoup plus courts, c'est-à-dire, vous n'aurez pas la concession sur Lyon-Marseille, par exemple. Vous pourrez avoir des tronçons plus courts. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de permettre à plein d'acteurs nouveaux de rentrer sur ce marché pour qu'il y ait plus de pression concurrentielle.
Alors, David, bah, on va vous poser la question. Est-ce que quand on vous pose la question, renationaliser ou pas, il y a une solution intermédiaire, celle dont parle Emmanuel, qui est préconisée dans ses rapports, c'est des concessions peut-être plus strictes, de plus courte durée?
Bah, peut-être, oui. Je suis pas suffisamment dans la partie économiste pour ça.
Mais David, en tout cas, vous dites bien, vous souhaitez pas que l'État reprenne la main sur les autoroutes. Vous faites pas confiance à l'État.
Pour moi, non, parce que le service, il sera pas du tout de la même qualité. On le voit très bien aujourd'hui. Même sur les parties d'autoroutes qui sont gratuites. On voit que l'état de l'autoroute, hein, pas l'état en lui-même, mais l'état des autoroutes se dégrade aussi un tout petit peu quand même. Donc,
alors David, quittez pas, on va poser la question aussi à Eric qui lui nous appelle de Château-Thierry, c'est ça? Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Ah bah Eric, vous êtes agent autoroutier, c'est ça?
Oui, je travaillais sur la concession, oui.
D'accord. Et alors, est-ce que dans ce débat justement, tiens, en tant que témoin privilégié, est-ce que vous seriez pour une renationalisation des autoroutes?
Bah disons que ça va changer beaucoup de choses, en fait. À partir du moment où vous êtes privatisé, vous avez la participation, l'intéressement, vous avez pas mal de choses.
Ah oui, vous, en tant que salarié, vous voyez aussi votre intérêt à travailler dans le privé, c'est ça? Vous ne souhaitez pas être un agent de l'État, mais un agent de société d'autoroute, parce que oui, ces sociétés, elles font des super profits, mais ça bénéficie aussi à leurs salariés, ça crée de l'emploi aussi. Oui, je vois Emmanuel qui hoche la tête, oui. Donc vous, Eric, vous n'êtes pas prêt à devenir un agent de l'État?
Bah, déjà, en plus... tout coûte cher maintenant. Vous savez, pour faire un kilomètre d'autoroute, ça coûte extrêmement cher. L'entretien coûte extrêmement cher. Donc
pour vous, Eric, quand on vous entend, là, les tarifs affichés au péage, c'est justifié, en fait?
C'est pour les concessionnaires, oui. C'est pas pour ceux qui travaillent.
Ah, vous voulez plus. Vous voulez votre part du gâteau, si je comprends bien, en tant qu'agent autoroutier, ouais, c'est intéressant aussi. Oui, mais vous avez raison de le dire ce matin, Eric. Alors, on entend bien que oui, c'est c'est pas forcément tranché pour les uns et les autres ce matin, cette renationalisation des autoroutes, parce que vous prenez justement les nationales et départementales, comme le disait David à l'instant. Certes, ça coûte cher, mais c'est justifié par la qualité du réseau. Est-ce que les tarifs sont trop élevés par rapport à la qualité des autoroutes en France? On va continuer à en débattre ce matin.
Juste un petit mot sur les tarifs, hein. On s'insurge contre la hausse de 4,5% à venir. Sauf que la formule de calcul de l'augmentation, c'est d'intégrer le niveau de l'inflation. Et donc, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire que ça augmente de 4,5% parce que, à hauteur de 70%, il faut intégrer l'évolution de l'inflation. C'est pas les concessionnaires qui imposent une augmentation de 4,5%.
Oui, mais si je peux vous contredire, Emmanuel, je crois qu'en 2021, l'inflation était négative. Les tarifs des autoroutes n'ont pas baissé pour autant.
Non, voilà, ils n'ont pas baissé, mais ils n'ont jamais augmenté plus vite que l'inflation.
C'est vrai. C'est vrai aussi. On va continuer à en débattre ce matin. Notez bien le rendez-vous à 7h40. Le maire écolo de Grenoble, Éric Piolle, lui, voudrait mettre beaucoup d'argent public sur la table. Il voudrait renationaliser les autoroutes. Il sera face à l'avocat Rémi Jossomme, spécialiste en droit routier. C'est le rendez-vous à 7h40 et vous venez y participer évidemment en composant le 32-16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, votre rendez-vous avec Nicolas Poincaré pour le portrait de Poincaré.
Portrait de Louis Arnaud, c'est un Français qui est détenu en Iran depuis le mois de septembre dernier.
Et puis les histoires, ce sera avec Marguerite Dumont.
Les étudiants en médecine priés par le gouvernement de retirer des fresques grivoises de leur salle de garde.
Oh, j'imagine que vous allez nous détailler ces fresques.
Bien sûr, Charles.
Évidemment, à tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et vous réagissez à notre question du jour. Faut-il davantage contrôler les prix au péage? Faut-il renationaliser les autoroutes? Vous témoignez, vous qui êtes sur la route, vous qui payez votre péage. Stéphane nous écrit cela. Il faut laisser les autoroutes dans le privé. Eux mettent les moyens pour les entretenir. L'État les laissera se dégrader. Pareil pour Thierry. Si les autoroutes sont nationalisées, on sera en grève. Ça sera en grève et il n'y aura plus aucun entretien. Et puis il y a aussi Steve qui nous dit « Je ne fais pas confiance au gouvernement pour prendre en charge l'autoroute car quand on voit déjà certaines routes nationales et départementales, c'est une catastrophe malgré l'argent de nos impôts. » Vous soulignez aussi, comme Ibrahim, le bon état de nos autoroutes. On a de belles autoroutes, dit-il, qui nous permettent de rouler en sécurité. À force de râler sur tout, la France devient un pays de tiers-monde. Voilà, c'est un peu radical. Romain nous donne l'exemple espagnol. Par contre, pendant ce temps, les pages sont en cours de suppression en Espagne, gratuité pour tous et en très bon état.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
6h54 sur RMC, je vous donne le programme de la suite de la matinale à 7h10. Notre témoin du jour, ce sera Hélène Touy du Parti Animaliste. À peine annoncée, la nouvelle brigade contre les maltraitances animales est déjà dénoncée. Hélène Touy est avec nous dans quelques minutes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Le portrait du jour avec Nicolas Poincaré, le portrait de Louis Arnaud, français détenu en Iran depuis le mois de septembre dernier.
Oui, et jusqu'à hier, on ne connaissait pas son nom ni son histoire. Ce sont ses parents, Jean-Michel et Sylvie Arnaud, qui ont décidé hier de rendre public le nom de leur fils pour alerter et mobiliser l'opinion parce qu'ils ont constaté que la politique du silence et de la discrétion ne fonctionne pas. Les parents ont donc raconté que leur fils de 35 ans, consultant dans le domaine de la banque, avait décidé de faire un tour du monde parce que c'est un grand voyageur, un citoyen du monde. Il a quitté la France en juillet dernier. Il a traversé l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Arménie et il est enfin arrivé en Iran le 2 septembre, c'est-à-dire juste après le début de la révolte contre le port du voile obligatoire. Depuis le 28 septembre, donc il a été arrêté pour une raison que l'on ignore, mais ses parents insistent pour dire qu'il n'est ni comploteur, ni espion, ni malfaiteur, qu'il n'a pris part à aucune manifestation, ni exprimé d'idées hostiles à l'Iran, à son gouvernement ou à l'islam. Bref, les parents ne comprennent pas les raisons de cette arrestation. Depuis pratiquement 4 mois, Louis Arnaud est détenu dans la sinistre prison d'Evin à Téhéran. Il n'a eu droit qu'à 2 brefs coups de téléphone en octobre, puis à une visite de l'ambassadeur de France en décembre. Et depuis, c'est-à-dire depuis 7 semaines, eh bien, on est sans nouvelles.
En fait, la France le considère comme un otage.
Oui, otage, c'est le terme qui est employé par le Quai d'Orsay pour parler de lui et des 6 autres Français détenus par le régime iranien. Parmi eux se trouve Fariba Abdelka, professeur à Sciences Po Paris, accusé d'espionnage. Cécile Collère, une enseignante des Yvelines qui faisait du tourisme, mais qui avait rencontré des syndicalistes iraniens. Elle est emprisonnée depuis 250 jours. Benjamin Brière, qui, comme Louis Arnault, faisait un grand voyage quand il a été arrêté alors qu'il tournait des images dans la montagne. Ou encore le franco-irlandais Bernard Pellan, qui vient de suspendre une grève de la faim. Mais le ministère français des Affaires étrangères se dit extrêmement inquiet pour sa santé. Un rassemblement de soutien à ses otages français est prévu demain à 14h sur le parvis des droits de l'homme à Paris.
Le portrait de Poincaré, c'est à retrouver évidemment à tout moment sur l'appli RMC en podcast. À 6h56, on passe aux histoires.
Les histoires de Marguerite.
Les histoires avec Marguerite. Marguerite, les internes en médecine priés par le gouvernement de retirer les fresques dans les salles de garde.
De grandes peintures grivoises, ce sont les fresques carabines peintes sur les murs des salles de repos des carabins à l'hôpital. C'est le nom qu'on donne aux étudiants en médecine. Le problème, c'est que très souvent, ça va trop loin, avec des représentations pornographiques, sexistes et carrément trop loin. Pour vous donner un exemple, en 2015, à Clermont-Ferrand, une fresque représentant un viol collectif entre super-héros avait suscité une polémique avant d'être effacée. Aujourd'hui, le ministère de la Santé remet un bon coup de pression. Ces fresques doivent être retirées en concertation avec les représentants des internes. Concertation, oui, car la tradition fait débat. J'ai contacté au téléphone Margot, ancienne interne à l'hôpital Bichat. Pour elle, c'est une évidence. Ces peintures sont d'une autre époque. C'est pas forcément l'avis d'Anna, qui est en train de finir ses études de médecine à Lyon. Il faut faire la différence entre des peintures qui font l'apologie d'actes condamnables et des dessins juste vulgaires, ce qui ne fait de mal à personne. Même ligne pour Olivia Fregnaud, c'est la présidente de l'intersyndicale nationale des internes. C'est un héritage, il faut le préserver. Petit point historique, au 19e siècle, c'est l'illustrateur Gustave Doré, le premier, qui a commencé à donner dans la caricature dans le cadre d'une commande exécutée pour l'hôpital de la Charité à Paris. Et puis la présidente appelle aussi à ne pas aseptiser ces endroits où les jeunes médecins peuvent exorciser un quotidien pas facile. Les murs blancs, c'est froid, c'est triste et ça n'a jamais aidé personne.
Ah, un débat presque autour des caricatures, de la liberté d'expression. Qui s'invite en fait dans les hôpitaux, dans les salles de garde. L'histoire racontée par Marguerite Dumont. Il est 6h58, dans un instant le journal évidemment de 7h, mais d'abord la météo du jour, Géraldine Demory.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.